La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade. C'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Guillaume Allègre, qui est un économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc l'OFCE de Sciences Po Paris, et qui a fait paraître tout récemment un livre très intéressant, Comment verser de l'argent aux pauvres, point d'interrogation, dépasser les dilemmes de la justice sociale, qui est paru au PUF. Eh bien, Guillaume Allègre, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça tombe bien, puisque notre entretien, il colle vraiment avec l'actualité, hein, suite à des récentes déclarations des autorités, même une tendance de fond par rapport aux revenus qu'on pourrait dire ou d'assistance, mais aussi aux revenus versés aux pauvres, aux travailleurs pauvres ou aux demandeurs d'emploi. Et donc, peut-être avant d'en venir au cœur du sujet de votre ouvrage qui est assez intéressant, on pourrait peut-être un peu s'attarder sur l'actualité. Vous aviez fait, il n'y a pas longtemps, c'était le mois dernier, hein, un entretien avec le journal Libération, c'était assez intéressant, où vous disiez qu'on assistait à une hyper politisation des politiques sociales. Hein. C'était pas tant sur un point de vue de pure économie, mais qu'il y avait, autre chose qui se cachait derrière tout ça, derrière le fait de raboter un peu les revenus pour les pauvres, l'assurance chômage du RSA et la suppression d'autres allocations. Et dans un entretien assez intéressant pour le numéro du mois de mars aussi d'Alternatives économiques, il y a un dossier sur surveiller et punir les pauvres, hein, vous dites aussi qu'on est dans une logique de sélection des pauvres méritants. Et voilà, si on pourrait peut-être commencer un peu par ces questions-là, un peu d'actualité, avant d'en venir au cœur de l'ouvrage, qui parle aussi de ça, qui est intéressant, mais on pourrait peut-être commencer par les questions un peu chaudes, si on peut dire.
Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que je parle d'hyperpolitisation ? Parce que dans le cas actuel, la réforme de l'assurance chômage, voire même des minima sociaux avec la loi plein emploi qui a été votée en décembre dernier, elle n'est pas faite pour que, avec, en vue de d'améliorer le sort des bénéficiaires des prestations sociales ou des assurances chômage, hein, voire même des travailleurs pauvres, elle est faite en vue de répondre à ce qui est perçu comme une fatigue de la solidarité ou un ressentiment des classes moyennes envers les assistés, en fait. Donc on assiste à une opération de cynisme politique, en fait, dont l'objectif est de taper sur un groupe social pour faire plaisir à un autre groupe social. Donc voilà, c'est ça que je parle, c'est de là par d'hyperpolitisation, c'est-à-dire que voilà, on utilise des symboles plus que on essaye de réfléchir de ce qui est bien pour les chômeurs, pour ceux qui sont les bénéficiaires de l'assistance sociale. Voilà, l'exemple par exemple au plein emploi, parce que moi le livre, mon ouvrage concerne plutôt les bénéficiaires de l'assistance sociale, hein, du RSA aujourd'hui, plutôt que du chômage, parce que c'est un peu plus ma spécialité. Et ben la loi qui a été votée en décembre a mis en place une obligation de 15 heures d'activité d'insertion sociale et professionnelle par semaine pour les bénéficiaires du RSA. Alors c'est pas du tout ce que demandait. Alors déjà 15 heures, ça peut paraître excessif, et c'est pas du tout ce que demandait par exemple, le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'accompagnement justement des bénéficiaires du RSA, il disait que le problème, c'était un problème d'offre d'activité hein, de la part des départements de France Travail aujourd'hui, plutôt qu'un problème de motivation de ces bénéficiaires. Donc voilà, donc ça veut dire qu'encore une fois, on lance des slogans de 15 heures et on les inscrit dans la loi, alors que ça répond à aucune demande concrète des acteurs sur le terrain.
Oui, tout à fait. Et ça, c'était par rapport à l'actualité récente, et même hein, par rapport sur ces questions-là, il y a plusieurs économistes, hein, collègue à vous, vu que vous êtes économiste, vous maîtrisez un peu les questions d'économistes. Par exemple, il y a Yannick Horty qui est souvent invité par rapport à ces questions, qui est professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel, qui dit aussi que par rapport à tous ces ce plan quand même qui ressemble plus à un plan d'économie de budgétaire plutôt qu'à une vraie politique en la matière, et que on voit que l'emploi il paye beaucoup plus que le chômage, mais que les situations de chômeurs, c'est pas payante économiquement, mais il y a quand même un acharnement à trouver une figure mythique de chômeur ou d'une personne au RSA qui bénéficierait de la solidarité nationale à travers les prestations, mais qui n'est pas du tout étayée de façon économiquement par les enquêtes. Donc il y avait Yannick Horty qui disait ça. Il y a aussi, l'année dernière, on avait interrogé Bruno Palier, qui est spécialisé en retraite, mais qui travaille aussi sur ces questions-là, qui disait un peu la même chose. Et aussi l'économiste Michael Zemmour. Donc vous êtes là, plusieurs collègues un peu économistes à aller dans le sens que dans un sens-là, que il y a rien économiquement qui étaye le fait que il y aurait une certaine soi-disant trappe à l'inactivité derrière les dispositifs de solidarité nationale au bénéfice des chômeurs ou dans une autre optique du RSA des pauvres ou des gens en attente de travail. Donc c'est aussi assez intéressant, vous êtes plusieurs économistes à porter ce discours-là. Vous êtes voilà, c'est il y a pas de consensus, mais quand même beaucoup de voix qui portent ce discours-là. Vous n'êtes pas tout seul, vous, Guillaume Allègre, à dire ça.
Oui, enfin, c'est pas juste les économistes. On peut regarder les chiffres. Hein. Le RSA, c'est plus de 600 euros, mais auquel il faut déduire le forfait logement. Bon, peut-être que c'est et rajouter pour certains les allocations logement, on est à des niveaux qui sont relativement faibles par rapport au salaire et par rapport au SMIC. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en regardant les données en comparaison européenne, par exemple. Donc, on n'est pas du tout, enfin, relativement faible. On est peut-être dans la moyenne européenne, mais pour un pays qui est supposé beaucoup dépenser en prestations sociales, puisqu'on est le pays qui dépense le plus en prestations sociales dans l'Union européenne et dans le monde, du coup. Mais au niveau du revenu minimum garanti, donc en cumulant le RSA et les allocations logement, on est un peu dans la moyenne européenne. Donc en fait, relativement, enfin, on n'est pas si généreux que ça. On est beaucoup moins généreux que les pays qui le sont vraiment, c'est-à-dire les pays scandinaves. Et surtout, il y a un écart très fort avec les revenus au niveau du SMIC. On est vraiment un ratio de 1 à 2 entre les revenus de au niveau du revenu minimum garanti et les revenus au niveau du SMIC. Donc voilà, il y a vraiment un écart et donc des gains à la reprise d'emploi, au moins à temps plein et puis aussi à temps partiel, parce qu'on a mis en place depuis 2008 SA activité, puis maintenant la prime d'activité. Donc voilà, maintenant des gains à la reprise d'emploi, ils le sont de façon relativement continue pour n'importe quel type de reprise d'activité. Donc ça c'est pour le RSA. Pour les allocations chômage, il faut savoir que la moitié des chômeurs aujourd'hui ne sont pas indemnisés. Donc eux, ils reçoivent rien. Donc du coup, soit ils ont des conjoints qui ont des revenus, soit ils reçoivent le RSA. Et évidemment, l'écart avec les revenus du travail sont dans ce cas-là très très important. Donc oui, aujourd'hui on D'ailleurs, plus personne ne parle de la trappe à inactivité ou de la trappe à pauvreté, parce que du coup, on a beaucoup aidé, on aide beaucoup au niveau du SMIC à temps plein, et maintenant, en partie parce que donc avec la prime d'activité, suite aussi en partie au gilet jaune, hein, pour mettre fin à la crise, le président avait proposer d'augmenter les salaires de 100 euros. Bon, finalement, c'est pas les salaires qui ont été augmentés, c'est la prime d'activité. La prime d'activité était augmentée de 90 euros au niveau du SMIC. Et du coup, maintenant, on parle plutôt de ce qu'on entend, c'est plutôt une complainte contre la trappe à bas salaire, c'est-à-dire que voilà, maintenant les gens seraient, ou la trappe à promotion, j'ai entendu ça aussi, une trappe à promotion, c'est-à-dire que les gens seraient coincés au niveau du SMIC du fait que les aides, que ce soit du côté individuel ou du côté même entreprise, puisque les allègements de cotisation, les exonérations sont maximales également au niveau du SMIC. Donc du coup, aujourd'hui, il y aurait une trappe à bas salaire. Mais en fait, on voit bien que l'instrument redistributif pour ses adversaires, il y a toujours un problème, parce que si vous ciblez l'instrument redistributif au niveau, par exemple, du temps partiel, on va parler de trappe à temps partiel ou de trappe à travailleurs pauvres. Si vous le mettez sur maximal au niveau du SMIC à temps plein, bah là le problème c'est que c'est plus ciblé sur les pauvres, et puis ça crée en plus une trappe à bas salaire. Donc évidemment, du fait que les objectifs de redistribution et d'incitation, c'est les deux faces de la même pièce, hein, c'est exact. Si vous redistribuez, vous réduisez les écarts, hein, entre les revenus, et donc c'est moins incitatif. Mais est-ce un problème d'avoir si c'est moins incitatif? Le problème, c'est de savoir si les gens répondent à ces incitations. Quand on parle de trappe à promotion, par exemple, je trouve ça bizarre, parce que les gens ne refusent pas une promotion. Ils ne travaillent pas moins pour ne pas avoir la promotion dans l'idée qu'ils vont perdre en prime d'activité. C'est pas comme ça que les gens raisonnent, pour des bonnes raisons, parce que évidemment la promotion, s'ils l'ont, ils vont la garder sur toute leur carrière, alors que la prime d'activité, ils vont peut-être pas l'avoir l'année prochaine si le revenu de leur conjoint augmente ou si les enfants partent de la maison. Donc voilà, cette question de la trappe à bas salaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le discours, mais on la voit moins dans les données lorsqu'on regarde. Et en plus, même théoriquement, on sait pourquoi on la voit moins dans les données.
Et voilà, déjà, ça remet un peu les pendules à l'heure. Avant de faire la pause musicale, je voulais relever quelque chose d'assez intéressant. Ça fait un peu, ça fera transition pour qu'on va revenir au niveau du livre. C'est que en matière d'allocation ou de minima sociaux pour les travailleurs pauvres ou pour ce qui est qualifié de population pauvre, vous dites qu'il y a une hiérarchie qui est assez manifeste. Selon comment les institutions ou l'État qu'ils envisagent avec les publics ciblés. Par exemple, il y a le SMIC, il va augmenter beaucoup plus vite que l'allocation qui sont le minimum vieillesse ou l'éducation adulte handicapé, qui seraient des bons pauvres ou des pauvres méritants. Et ces allocations, elles vont augmenter beaucoup plus vite que celles du RSA, qui seraient des pauvres imméritants, des mauvais pauvres. Donc il y a même une hiérarchie par rapport aux prestations, et aussi une hiérarchie dans la conditionnalité des aides, parce que les prestataires du RSA sont conditionnés à beaucoup de choses et ça s'est sanctionné s'ils ne remplissent pas les conditions. Pour les travailleurs pauvres, la prime d'activité, elle n'est pas conditionnée, mais il faut la réclamer. Alors que pour la population française en général, l'impôt, il se fait par prélèvement automatique. La déclaration annuelle, elle est pré-remplie. Il n'y a rien qui est demandé. On voit quand même une certaine hiérarchie sociale symbolique là-dedans. C'est assez intéressant de le noter. Mais c'est pour voir, comme ça, on en parlera plus quand on va parler de votre ouvrage après la pause musicale.
D'accord. Oui, exactement. Cette hiérarchie, vous la voyez aux trois niveaux que vous avez mentionnés. Donc, au niveau des revenus, le SMIC augmente effectivement plus vite depuis 20 ans que l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse, qui sont censés être des pauvres qu'on appelle méritants, donc en sciences sociales, en sociologie. C'est parce qu'ils méritent la prestation du fait qu'ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils font des efforts d'insertion sociale et professionnelle. Du fait de leur handicap Par contre, il n'y a pas de présomption de mérite chez les allocataires du RSA, et donc ils doivent prouver leur mérite. Leur revenu baisse relativement aux autres minima sociaux et aux salaires. Et en plus, ils doivent de plus en plus leur mérite. Donc, effectivement, on met 15 heures, l'Assemblée a voté la loi plein emploi qui renforce la conditionnalité du RSA. Et encore, évidemment, effectivement, vous avez tout à fait raison sur le fait que dans la hiérarchie sociale, le rapport à l'administration est différent. Donc, l'impôt est prélevé automatiquement, il y a des déclarations pré-remplies. La prime d'activité, par contre, il faut la demander. Donc, ça, c'est la prime d'activité, c'est pour les travailleurs pauvres, l'impôt, les classes moyennes. Et le RSA, non seulement il faut le demander, mais en fait, le processus est beaucoup plus compliqué que pour la prime d'activité, qui fait que le recours est beaucoup plus faible. Non, on a des peu de non-recours trimestriel sur le RSA qui est de l'ordre de 35%. C'est des taux qui sont bien supérieurs au non-recours sur la prime d'activité ou sur les allocations logement. On est plutôt de l'ordre de 10% de non-recours, voire moins. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un rapport à l'administration qui n'est pas du tout le même selon les instruments et selon où vous vous situez dans la hiérarchie sociale, selon que vous soyez bénéficiaire du RSA, de la prime d'activité, ou que vous payez de l'impôt sur revenu, par exemple.
Et ben voilà, on va faire la pause musicale et après on va revenir au cœur de votre ouvrage. êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter Les Aiglons de Basse-Terre et le titre du morceau c'est Chambeau Meringue. Eh ben, on poursuit notre entretien avec Guillaume Allègre par rapport à son livre « Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale ». Et dans cet ouvrage, un peu, vous vous demandez, derrière la question comment verser de l'argent aux pauvres, alors vous disiez, hein, doit-on, par exemple, les questions, doit-on verser de l'argent à tous, sans distinction doit-on verser cet argent aux individus, aux personnes, ou plutôt aux foyers, aux ménages? Vous posez un peu plusieurs questions comme ça, comment verser de l'argent, et vous vous demandez comment vous, l'économiste, en tant qu'économiste, comment vous pouvez répondre à cette question, à la question normative par rapport à ce débat, et vous sur un mode réflexif, vous dites qu'on a trop cherché les réponses qui sont dites un peu optimales, que la science économique souvent elle convainc pas tant, et vous êtes plutôt sur votre approche plutôt un revenu minimum d'insertion, mais digne de ce nom, si on pourrait dire, un réel revenu d'insertion axé sur les droits sociaux, sur les droits à la subsistance, et deux, à l'inclusion sociale et économique. Voilà un peu votre propos. Et dans le numéro de l'Alternative économique du mois d'avril, vous êtes chroniqué. Voilà. Donc j'ai un peu dans la chronique, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, donc à l'heure où le gouvernement il veut obliger les allocateurs de RSA à réaliser 15 heures d'activité par semaine, votre livre il tombe à pic parce que vous remettez en perspective historique et philosophique les débats du moment, mais aussi parce que vous faites des propositions concrètes pour améliorer le sort des plus démunis. Donc d'un côté, en tant qu'économiste, vous portez tout à tour, vous dites, la casquette du plombier, de l'ingénieur et du philosophe, donc vous connaissez un peu toute la tuyauterie dans la matière aussi, vous cherchez à comprendre aussi tous les mécanismes généraux, en tant qu'ingénieur, mais aussi en philosophe, vous avez la question des finalités par rapport à comment verser de l'argent aux pauvres, donc c'est assez intéressant, et en filigrane, dépasser les dilemmes de la justice sociale, c'est qu'est-ce qui est juste en matière de redistribution. C'est un peu la thèse centrale du livre. Voilà. Et donc, dans cette thèse, vous défendez donc un revenu minimum d'insertion le plus élevé possible dans la mesure où il ne décourage pas l'insertion, et vous fixez le seuil à 900 euros. C'est ce qui vous fait aussi, d'un certain côté... vous n'adhérez pas à la proposition d'un revenu universel. Il y a quelques années, dans la collection La vie des idées au PUF, vous avez dirigé avec Philippe Vampargis un livre de débat aussi sur la question. Voilà. Bon, si vous pourrez un peu dire pourquoi vous avez voulu faire ce livre. Et, d'ailleurs, après l'introduction que j'ai faite, vous travaillez là-dessus depuis un certain temps. Pourquoi vous l'avez voulu faire ce livre-là, peut-être maintenant?
Exactement, c'est une longue introduction. Il y a deux points de départ dans ce livre. Premier point de départ, c'est le titre du livre, c'est répondre à la question comment verser de l'argent aux pauvres. Et le point de départ aussi, comme vous en avez discuté, c'est ce débat sur revenu universel, et notamment avec 20 Paris. Et je trouve que le problème du débat avec le revenu universel, c'est qu'on doit se positionner assez vite et assez tôt pour ou contre. Et après, si vous êtes pour, vous trouvez que des avantages. Si vous êtes contre, que des inconvénients. Et en fait, il n'y a pas de débat. Il est un petit peu faussé, surtout que le revenu universel, il y en a plus, comme chacun sait aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, on ne parle pas forcément tous de la même chose. Donc, je voulais repartir des caractéristiques qui diffèrent entre le revenu minimum d'insertion, ou le RSA tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et le revenu universel. Et questionner chacune de ces caractéristiques séparément, de façon analytique, en fait. Et donc, quelles sont ses caractéristiques? Le revenu universel, il doit être d'un montant suffisant, alors que le RSA, il est d'un montant insuffisant. Le revenu universel, il est inconditionnel, alors que le RSA est conditionné. Le revenu universel, il est versé de façon universelle à tout le monde de façon égale, alors que le RSA est ciblé sur les plus pauvres. Le revenu universel est individuel, versé de façon individuelle à chaque individu, alors que le RSA est versé au ménage de façon familialisée. Donc voilà, il y a ces quatre questions-là, qui sont quatre chapitres du livre, et on peut, au moins dans un premier temps, répondre de façon séparée à ces questions-là, et qu'est-ce qui est le mieux en termes de politique sociale, et ce qui permet de répondre à la question aussi, pourquoi est-ce que on fait un revenu minimum garanti qui est conditionné à des efforts d'insertion, qui est ciblé sur les plus pauvres et qui est familialisé. Donc pourquoi est-ce que le RMI a ces caractéristiques-là depuis 1989, et pourquoi tous les revenus minimums garantis dans le monde, dans les pays qui en ont, donc plutôt les pays riches, pourquoi tous les revenus minimums garantis ont ces caractéristiques-là, et pourquoi alors, finalement, le revenu universel existe malgré le fait qu'on en parle beaucoup et que parfois certains disent qu'il existe, mais en fait il existe nulle part. Donc il y a des formes de revenu universel qui existent en Alaska ou par exemple, mais c'est plutôt un dividende universel, il n'est pas suffisant par exemple. Et le niveau dépend des revenus du pétrole, parce qu'il est adossé, parce que comme c'est un dividende, en fait, il est adossé à un actif qui est plus ou moins rentable, enfin que l'on vend à un prix plus ou moins élevé. Donc quand les revenus du pétrole baissent, ben, le permanent fund alaskain baisse aussi. Donc c'est pas un vrai revenu universel. Il manquait pas vraiment de revenu universel. Donc j'adresse cette question-là de façon analytique et des caractéristiques souhaitables finalement. Et de pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça et pas les défenseurs du revenu universel le plaident. Donc voilà. Donc, et le deuxième fil, vous l'avez dit, c'est comment répondre à cette question-là d'un point de vue d'un économiste ou d'un chercheur en sciences sociales. Comment est-ce qu'on peut répondre à la question normative de ce que l'on devrait faire et pas la question descriptive de ce qui est. C'est-à-dire que si on fait une comparaison avec les sciences, un astrophysicien, il va vous dire comment aller sur la planète Mars ou sur une autre planète, mais il ne va pas vous dire pourquoi est-ce qu'il faut aller dans telle planète. Pareil pour un physique nucléaire, on peut vous dire, un physicien peut vous dire comment construire la bombe, mais il ne va pas pouvoir vous dire s'il faut l'utiliser ou non. D'ailleurs, ça, c'est le thème du film Oppenheimer. Mais l'économiste, lui, il se permet le plus souvent de faire des propositions normatives très, 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 très précises en disant, ben voilà, le taux optimal de l'impôt sur le revenu supérieur, ça serait de 80% ou de 70% ou 60%, ou le taux optimal de prélèvement obligatoire, ce serait tel, ou tel impôt serait optimal par rapport à tel autre. Et donc il fait ça en faisant un calcul finalement, mais un calcul lorsque l'économie fait des calculs comme cela pour faire des propositions de politique publique, hein, il devient tout puissant en fait, parce que c'est lui qui fixe le cadre d'analyse normatif, en fait. Et donc, non seulement il fait le calcul, mais en fait, voilà, il vous explique exactement ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a plus de place, il ne laisse plus de place au débat public, et de plus, généralement, n'est pas très convaincant, en fait. Parce que justement, pourquoi il n'est pas convaincant? Parce que dans ce cas-là, il ne discute pas des objectifs sociaux, il les prend comme données, il dit, bon ben voilà, faut augmenter l'emploi, le PIB, maximiser l'utilité sociale, sans vraiment discuter des fins sociales, maximiser l'utilité sociale, ça veut dire quoi, dans quelles conditions, quel emploi par exemple, c'est pareil, quel type d'emploi, et pareil pour la production, quel type de production. Et donc, lorsqu'il essaye de se faire tout puissant et de dire exactement ce qu'il faut faire, bah, l'économiste non seulement n'éclaire plus le débat public, mais n'est plus vraiment convaincant non plus, parce qu'en fait, les personnes ne l'écoutent plus. Si vous avez une phrase qui commence d'un point de vue économique, il faut faire ci, il faut faire ça, vous n'allez pas écouter la personne qui commence des phrases comme ceci, en fait.
Voilà. Et pour en revenir un peu aussi au niveau un petit historique aussi par rapport à ce revenu minimum d'insertion, hein, dans les années 80, c'est l'émergence d'une population de nouveaux pauvres, hein, parce qu'après pendant la connue période économique, donc les 30 glorieuses où il y avait un certain relative amélioration du niveau de vie pour de nombreuses personnes. Et voilà, au niveau des salaires qu'un peu du reste. Mais après, avec la crise des années 70 et 80, on a vu l'émergence d'une population de nouveaux pauvres mais qui étaient dépourvus de droits et qui ont suscité dans le public une certaine compassion. Et par rapport à ça, il y avait des associations caritatives, des associations sociales. Dans les années 80, il y a le service public de l'aide sociale du gouvernement qui était très dans une logique un peu d'aide sociale. Voilà, les gens qui ont poussé pour un revenu minimum d'insertion en France, où il y a eu un relatif consensus en la matière, hein, bien que des gens étaient opposés, il y a quand même un consensus sur la question, il faut quand même le dire. C'est pour ça que ça a été créé, adopté donc à la fin des années 80, donc pour diverses raisons, il y a eu un consensus là-dessus, peut-être pas le temps de les exposer, parce que ça prendrait du temps. Et voilà, ça a duré quelques temps. Et jusqu'aux années 90, mais c'est à partir des années 2000 qu'il y a eu un retournement de bâton, aussi pour diverses raisons, hein, divers facteurs, à la fois sociaux, économiques, symboliques et politiques, où il y a eu plus tant de compassion envers cette population de pauvres, dépourvus de droits, mais plutôt un rejet derrière un discours un peu anti-assisté dans les expressions telles que cancer de la cistana et autres, et de stigmatisation qui sont dues à de multiples raisons, tant symboliques, économiques, politiques, etc., etc. On va peut-être pas le développer, mais ce qui va ça sera, il y aura une érosion un peu de capital sympathie pour ce revenu RMI, et c'est aussi à cette époque-là qu'on va voir la réforme du RMI qui va transmuter en RSA, et donc ça va être aussi différent dans l'approche envers les pauvres et aussi toutes les allocations, d'autres allocations telles que aussi en la matière et les allocations pour le chômage, non, l'allocation, l'ASS, qui a été supprimée aussi il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc c'est aussi historiquement, il y a aussi des changements par rapport à ça, qui dépendent autant du débat public que d'autres choses. Donc je ne sais peut-être pas si vous voulez intervenir là-dessus.
Oui, effectivement, on peut reprendre un petit peu l'histoire de la protection sociale en France, elle est historiquement, la France est un pays qu'on dit corporatiste. C'est-à-dire que la protection des revenus s'est fait dans l'emploi. Et on a essayé de protéger les revenus de chaque corporation, ou voire du SMIC, du SMIC d'abord et du SMIC ensuite. Avec l'augmentation, le problème de cette stratégie-là, dans l'emploi aussi, des grilles salariales, et puis une protection des revenus qui, qui, jusque dans les années 70, étaient relativement égaux, en tout cas en comparaison avec les autres pays. Donc, des inégalités qui étaient contenues dans les entreprises. Le problème de cette stratégie-là, c'est qu'avec l'augmentation du chômage et la tertiarisation de l'économie, effectivement, on a fait face à des pauvres qui n'étaient pas forcément de ceux que l'on connaissait avant. Alors, il y a aussi, dans les années 80-90, une forte baisse de la pauvreté parmi les personnes retraitées, hein, mais déjà années 60, années 70, 80, 90. Et du coup, au milieu des années 70, le chômage qui augmente, la pauvreté devient beaucoup plus jeune. Elle touche beaucoup plus les jeunes, beaucoup moins les retraités, et beaucoup plus les gens qui sont entre l'emploi et le chômage et l'inactivité. Donc c'est là qu'on met en place en 89 le RMI. Donc c'est fait pour, c'est une sorte de filet de sécurité universelle, hein, qui permet de toucher aussi les personnes d'âge actif, parce que le minimum vieillesse et l'allocation habitat handicapé existaient depuis très longtemps, et puis il y avait un trou dans cet ensemble d'instruments qui étaient les personnes d'âge actif. Et donc on met en place le RMI à cette époque-là, une époque qui est beaucoup plus tardive par rapport à d'autres pays, par rapport aux pays libéraux et sociaux-démocrates. Le minimum social pour les personnes d'âge actif est mis en place de façon beaucoup plus tardive. Mais en 88, donc c'était une des propositions de François Mitterrand. C'était dans la lettre française qu'il avait adressée pendant la campagne en 88. La gauche à l'époque avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale suite aux élections législatives. Alors la gauche, hein, avec le Parti communiste qui ne faisait pas partie du gouvernement, mais qui était prêt à voter la loi sur le RMI, hein, évidemment. Et donc, mais quand même, les rapporteurs de la loi et le gouvernement, Michel Rocard à l'époque, ont tous essayé d'avoir un consensus le plus important possible à l'Assemblée nationale. Et ils ont vite vu qu'ils pouvaient atteindre l'unanimité lors du vote de la loi. Et donc, ils ont cherché ce consensus qui aurait pu essayer de passer en force en mettant exactement les caractéristiques qu'ils voulaient. Hein. Mais ils ont cherché le consensus, notamment avec les groupes d'opposition de droite, qui demandaient d'ailleurs, il y avait un débat à l'époque, sur la conditionnalité. Et donc, il y avait une majorité de députés de gauche qui étaient prêtes à voter un revenu complètement inconditionnel. Mais c'était une ligne rouge pour la droite qui voulait une conditionnalité en termes d'insertion sociale et professionnelle. Donc, c'est à ce moment-là qu'a été décidé de mettre une conditionnalité mais relativement faible, ex post, c'est-à-dire que vous n'avez pas à montrer que vous êtes que vous faites des efforts avant de recevoir la prestation. Vous recevez la prestation et puis elle peut être levée. Vous pouvez avoir une sanction éventuellement si il est montré que vous ne faites pas les efforts attendus. Donc voilà. Donc une fois qu'a été mis en place, effectivement, vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vote à l'unanimité des députés, hein, et une fois mise en place du RMI en début 89, avec une commission d'évaluation et une clause de revoyure. C'est-à-dire que la loi devait être revotée à l'Assemblée nationale au bout de 3-5 ans, je ne me souviens plus, mais elle devait être revotée. Il y avait une clause de revoyure, il y avait un rapport qui devait être remis à l'Assemblée et puis un vote pour confirmer pour pérenniser le RMI. Et le rapport, à l'époque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon, que la prestation marche, fonctionne, et notamment qu'elle Et on découvre à cette époque des nouveaux bénéfices, des nouveaux pôles dans le sens de qui n'étaient pas connus des services sociaux. Et donc, à une population qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus urbaine. Et donc, ça, c'était un des bénéfices de la prestation, c'est de qu'il y ait des nouvelles personnes qui recourent, des personnes auxquelles on s'attendait pas, Mais la contrepartie, c'est que le nombre de bénéficiaires du RMI à l'époque va exploser, alors qu'on s'attendait plutôt à 500 000 bénéficiaires, il a vite monté à 1 million. Et donc, la question alors, ça a été de savoir que faire, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'un million d'allocataires des minima sociaux, d'un million de personnes d'âge actif. Et c'est là où la question de la trappe à pauvreté a commencé à prendre de l'ampleur, et également, on a commencé aussi à parler des travailleurs pauvres. Et donc là, on commence à questionner à partir des années, je dirais début des années 2000, on commence à questionner ces instruments-là et à montrer plutôt le côté contre-productif du fait aussi d'un grand nombre de bénéficiaires en fait et d'une situation qui est de toute façon structurellement insatisfaisante.
Voilà. Eh ben, on va faire la dernière pause musicale avant de peut-être venir sur les propositions que vous faites pour un revenu minimum d'insertion digne de ce nom.
Jou kon bon die fè jou, yo su le ke fon de dodo. Dou le jou yo ka manje poason, sa bien chou a dan kou bouyon. Pa men pale pou se fo yo la, kote mi se piment toujou la. Mem se ki chef an di tan la, prefere tet a se poason la. Ki madame ki jala se misye, profite pou fè yon mechanste. Poisson qui te vle, il a tété kiloti tcha-tcha, et contre le jour il fait sauce là. Les a mangé vini, monsieur était absent, madame l'a mangé à 7 ans. Il quittait ses têtes là pour monsieur, parce que c'est ça il bien aimé. Même si on est tout fatigué, il m'a dit madame si vous manger. Madame l'a servi ses foyola, sans oublier tête à ses tcha-tcha là. Même si on est tout fatigué, il m'a dit madame si vous manger. Madame l'a servi ses foyola, sans oublier tête à ses tcha-tcha là.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est la tête dans l'étagère. On vient d'écouter un morceau qui nous vient des Antilles, l'orchestre Combo Zombie et Michel Yeye. Et le titre, c'est Monsieur à tête à poisson là. On va finir notre entretien avec Guillaume Malègre. Et donc, dans un contexte où, comme vous dites dans un article récent sur Alternative économique par rapport à la suppression de l'ASS, que les populations seniors, parents isolés, précaires, ils vont faire les frais de la suppression de l'ASS avec les autres mesures visant à circonscrire l'inversement des aides sociales, on risque de s'attendre à une hausse de l'intensité de la pauvreté. Et concrètement, avec des ménages qui auront beaucoup moins de ressources, avec des effets de long terme sur la santé physique et mentale, ce qui est vraiment très très grave. Et par rapport à ça, à l'inverse, pour contrer cela, vous aviez des idées en la matière par rapport aux revenus, comment verser de l'argent aux pauvres ou des revenus de solidarité, que, par exemple, vous dites qu'on pourrait prévoir de l'augmenter progressivement, par exemple, le RSA en 5 ans et l'aligner sur le minimum vieillesse. Ça serait donc que là, le RSA, c'est 42% du SMIC, et donc ça ferait 65% du SMIC, et que même par rapport à l'emploi, ça n'aurait pas de problème négatif en termes d'emploi, parce que quand vous regardez par rapport, par exemple, aux pays nordiques, il n'y a pas de corrélation par rapport à des minima sociaux forts et l'activité. Dans les pays nordiques, là où il y a les minima sociaux les plus élevés au monde, c'est là où on trouve le taux d'emploi les plus élevés, notamment chez les moins qualifiés, tandis qu'aux États-Unis, où les minima sociaux sont très faibles, les taux d'emploi sont faibles. Donc voilà, vous avez des pistes en la matière. Donc, vous pourrez nous en parler.
Oui, exactement. Donc souvent, lorsqu'on parle des montants des minima sociaux de redistribution, on a en tête un modèle où c'est des incitatifs. Et ben, donc ça, c'est le modèle nouveau, finalement, c'est la nouvelle trappe à pauvreté. La trappe à pauvreté, ce serait la diminution des prestations lorsque vous augmentez vos revenus d'activité. Ça, c'est censé être un modèle qui s'applique sur la rationalité des individus. Mais c'est une rationalité à courte vue. Hein. C'est des individus myopes. Lorsqu'ils augmentent leurs revenus d'activité, ils n'ont pas en tête de carrière, ils n'ont pas en tête que, effectivement, pour gagner deux fois le SMIC, il faut pas peut-être commencer par gagner le SMIC et puis parfois un demi-SMIC. Donc ces individus rationnels, mais myopes, ils seraient emprisonnés par la trappe à pauvreté. Ça, c'est un des modèles, mais ça oublie la trappe à pauvreté ancienne, celle qu'on imaginait avant. C'est la trappe à pauvreté, telle que l'expression qu'on utilisait avant les années 2000, on l'utilisait pour dire que c'est la pauvreté elle-même qui enferme. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas les ressources, vous manquez de ressources, mais vous ne pouvez pas faire les investissements nécessaires dans votre formation, dans votre santé, dans votre mobilité, qui fait que ces investissements, ou dans un emploi qui peut être un petit peu coûteux au départ, qui fait que effectivement, c'est pas les instruments qui vous donne des ressources qui sont la trappe à pauvreté, mais la pauvreté elle-même. Donc, si on pense que c'est la pauvreté elle-même qui est la trappe à pauvreté, alors il faut donner plus de ressources aux pauvres. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut verser de l'argent aux pauvres et qu'il faut augmenter les minima sociaux. Et comme vous le dites, dans les pays, alors là, ce n'est pas un lien de causalité strict, mais dans les pays qui ont les taux d'emploi les plus élevés parmi, y compris parmi les individus peu qualifiés, ben c'est aussi donc les pays nordiques, c'est aussi dans ces pays-là où les minima sociaux sont les plus élevés. Donc peut-être que la nouvelle trappe à pauvreté, peut-être qu'elle existe un petit peu, hein, peut-être qu'il peut y avoir des effets par-ci par-dessus de là, mais c'est pas peut-être pas la trappe la plus pertinente à regarder si on veut augmenter l'emploi et avoir un emploi et atteindre le plein emploi de qualité. Et donc, ce que je propose effectivement, c'est de dire que manifestement aujourd'hui, le niveau du minimum social est manifestement trop faible. Si vous demandez à des gens, à quel niveau devrait être le minimum social pour les personnes privées d'emploi, quel devrait être le niveau des moyens convenables d'existence, quelle que soit la façon dont vous le formulez, il donne des niveaux qui sont bien plus élevés et qui sont plus proches des 900 euros que je proposais tout à l'heure que des 600 euros actuels. Donc effectivement, on peut augmenter. Mais ce que je ne propose pas d'augmenter directement, d'augmenter de 50% les minima sociaux. Ce qu'il peut être aussi, c'est de l'augmenter progressivement sur un quinquennat, voire deux, et de mettre en place une commission. Et cette commission, elle serait chargée de mettre un stop à l'augmentation si elle voit des effets négatifs manifestes. C'est-à-dire que la commission serait en charge de regarder tous les effets que pourrait avoir cette augmentation et dire, eh bien, voilà, l'objectif politique, c'est 900 euros, mais s'il y a une commission qui arrive à montrer que ça a des effets négatifs manifestes, alors on peut mettre un stop. On peut aussi revoir clause de revoyure. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça serait une clause de revoyure qui serait annuelle et où on pourrait revoir le rythme, soit le rythme d'augmentation, soit le niveau relatif. C'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait au Royaume-Uni lorsqu'ils ont mis en place le salaire minimum. Hein. Il y a eu exactement ce type de commission qui s'appelait la Low Pay Commission et qui était censée, donc un objectif politique qui avait été en pourcentage du revenu médian qui avait été fixé. Hein. Mais la Low Pay Commission était là pour pouvoir mettre un frein d'urgence si il s'avère là, il y avait des effets sur l'emploi manifestes ou selon le jugement des membres de la commission. Et donc voilà, et donc dans ce sens-là, finalement, la charge de la preuve devient, j'allais dire, on retourne la charge de la preuve, mais c'est pas exactement le bon mot, retourner la charge de la preuve. Je dirais que la charge de la preuve, elle devient plus symétrique. Parce que, en fait, le fait de verser de l'argent, c'est le fait de garantir des moyens convenables d'existence, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution aujourd'hui. C'est un droit qui fait consensus. Pour les personnes privées d'emploi, les moyens d'existence devraient être garantis. Et on le fait pour les retraités et pour donc les plus de 65 ans et pour les personnes handicapées. Mais on le fait pas pour le RSA parce qu'il y a une sorte de présomption que l'instrument serait désincitatif. Présomption qui n'est pas corroborée par les études. Hein. Les études montrent que les effets désincitatifs sont soit nuls, soit concernent des groupes très 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 limités et que l'on pourrait d'ailleurs compenser par ailleurs. Et donc, si on part du principe que le droit aux moyens des convenables d'existence est un droit constitutionnel, que ce droit n'est pas aujourd'hui satisfait du fait d'un niveau manifestement trop bas du RSA, alors la charge de la preuve, la charge de la preuve, elle est quand même sur ceux qui disent que ce ne serait pas au bénéfice des bénéficiaires du RSA que de l'augmenter. Et ça, je pense que cette preuve-là, ils auront beaucoup de mal à être convaincant pour montrer que ce serait au bénéfice même des bénéficiaires du RSA de ne pas augmenter le RSA.
Eh ben, on vous remercie pour cet entretien qui, j'espère, a permis d'éclairer certaines méconnaissances en la matière et on vous souhaite une bonne continuation.
Parfait, ben merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère. Une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.